VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Cameroun, le président Paul Biya, candidat pour un 7e mandat. Dans un tweet, il dit répondre favorablement à l'appel du peuple.
Je devais laisser les choses et donner une chance à d'autres personnes pour que cette personne vienne montrer de quoi ils sont capables.
Au vu des actes que nous voyons qu'ils posent pour le pays, c'est à nous les jeunes de prendre la décision.
En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a été désigné par son parti candidat à la présidentielle.
Militant et autres cadres du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo devrait être plébiscité candidat de ce parti.
Au Sénégal, l'opposition marche pour dénoncer la gouvernance du président Macky Sall. Le président érythréen se rendra samedi en Éthiopie dans le cadre du rapprochement historique entre les deux pays. Donald Trump s'est entretenu avec la première ministre britannique Theresa May. Des milliers de personnes ont manifesté contre sa visite. Et dans la Minute Éco, le monde des start-up africaines a le vent en poupe. Et J-2 avant la grande finale de la Coupe du Monde à Moscou dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans au pouvoir depuis 1982, a annoncé sa candidature à un 7e mandat. Au lendemain de l'attaque du convoi de son ministre de la Défense en zone anglophone, déstabilisée par des séparatistes armés, il affirme que sa candidature était une réponse à des appels incessants de ses compatriotes du Cameroun et de la diaspora. Salwa Jafari.
C'est un 7e mandat que Paul Biya compte briguer le 7 octobre et c'est sur Twitter que le président de 85 ans a annoncé la nouvelle. Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus stable, plus uni et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. La présidentielle prévue le 7 octobre va se tenir dans un contexte de violence quotidienne dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui risquent de perturber le scrutin. L'annonce du président Biya a été faite au lendemain de l'attaque du convoi de son ministre de la Défense, Betty Assomo, par des séparatistes anglophones armés dans le Sud-Ouest. Par ailleurs, le Cameroun continue de faire face aux incursions des militants islamistes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Si Biya remporte ce scrutin, il pourrait passer plus de 43 ans à la tête du Cameroun.
Et nous y reviendrons dans la partie magazine. En République démocratique du Congo, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, acquitté le mois dernier par la CPI, a été désigné sans surprise par son parti candidat à la présidentielle du 23 décembre, censé élire le successeur de Joseph Kabila. Âgé de 56 ans, l'opposant Bemba a été plébiscité en son absence par les membres du MLC à l'issue du congrès de ce parti qui s'est tenu à Kinshasa. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Et toujours République démocratique du Congo, l'ONU a exprimé son inquiétude face aux témoignages faisant état de violences barbares commises dans l'est du pays, dans la province de l'Ituri. Pour elle, le retour des quelques 150 000 personnes ayant fui cette province en raison des violences intercommunautaires qui s'y sont déroulées se fait dans des conditions difficiles. Les violences en Centrafrique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a lancé dans un communiqué un nouvel appel à l'arrêt de la violence dans le pays. Il a affirmé sa profonde préoccupation face aux activités persistantes de groupes armés à Bangui, la capitale, et dans le pays. Au Sénégal, le parti démocratique de l'ancien président Abdoulaye Wade et ses alliés du Front patriotique pour la défense de la République organisent depuis cet après-midi une marche à Dakar. C'est pour dénoncer la gouvernance du président Macky Sall. Abdourahmane Dia.
L'ancien parti au pouvoir réclame aussi que le gouvernement sénégalais accepte le retour de Karim Wade au Sénégal et la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall, tous deux condamnés dans des affaires distinctes de détournement de fonds publics ou d'escroquerie. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade vit au Qatar depuis qu'il a été gracié par le chef de l'État Macky Sall, l'opposition accusant le pouvoir de l'empêcher de revenir au Sénégal. Quant au maire de la capitale, il purge une peine de 5 ans d'emprisonnement. Son procès en appel reprend la semaine prochaine. L'opposition mobilise ses troupes à un peu plus de 6 mois de la présidentielle et accuse le gouvernement d'instrumentaliser la justice pour écarter les principaux adversaires de Macky Sall. Le pouvoir, lui, dégage en touche ces accusations. C'est la première grande manifestation de l'opposition autorisée par le préfet de Dakar ces derniers mois.
Et par ailleurs, la justice sénégalaise condamne à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison les responsables de la fuite des épreuves du bac, dont un proviseur, des professeurs et des élèves, selon un avocat des prévenus. 42 personnes étaient jugées pour notamment association de malfaiteurs, escroquerie, obtention frauduleuse d'avantages matériels indus après des fuites au baccalauréat en juillet 2017. Le président érythréen Asaïs Afewerki se rendra samedi en Éthiopie dans le cadre du rapprochement historique entre les deux ex-frères ennemis de la Corne de l'Afrique. Des précisions avec Irénée Hermanongbo.
Cette visite vise à renforcer la démarche de paix et de coopération entreprise par les leaders éthiopiens et érythréens. C'est le président Isaias Afwerki qui conduira lui-même la délégation qui se rendra demain à Addis Abeba, puis son ministre de l'Information Yemane Gebremeskel. Selon Fana, la radio-télévision proche du pouvoir éthiopien, la visite de M. Isaias durera 3 jours. À cette occasion, le président érythréen procédera à la réouverture de l'ambassade de son pays à Addis Abeba et visitera un parc industriel. Sur son compte Twitter, Fitsoma Arega, chef de cabinet du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, a remercié le président érythréen d'honorer son pays à travers cette visite. M. Isaias et Abiy Ahmed fait lundi à Asmara 2 décennies d'état de guerre entre leurs pays en signant une déclaration conjointe de paix et de coopération. Depuis lors, les communications téléphoniques ont été rétablies entre les deux pays. Les liaisons aériennes doivent, elles, reprendre mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain a déclaré aujourd'hui que la relation entre les États-Unis et la Grande-Bretagne était la plus spéciale qui soit. Donald Trump revient ainsi sur ses propos de la veille contre la première ministre britannique, Theresa May, Claire Morin-Gibourg.
Donald Trump a été reçu par la reine Elisabeth au deuxième jour de sa visite, alors que des dizaines de milliers de personnes manifestaient contre sa présence au Royaume-Uni. Le président américain a opté pour un ton plus conciliant sur la façon dont il voyait la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Au cours d'une conférence de presse, il a assuré n'avoir jamais mis en cause la stratégie de Madame May sur le Brexit. Le président Trump a souligné avoir fait des suggestions sur la façon d'aborder ce dossier, laissant entendre qu'elle n'avait pas été suivie. Affichant sa volonté de parvenir à un accord d'échange bilatéral avec Londres, Donald Trump s'est voulu optimiste. Nous voulons faire des échanges avec le Royaume-Uni, ils veulent en faire avec nous. Theresa May a confirmé ses propos. Lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, nous chercherons à établir un accord de libre-échange Royaume-Uni-États-Unis ambitieux, a-t-elle renchéri.
Et au Pakistan, au moins 90 personnes ont été tuées et plus de 30 autres blessées dans l'explosion d'une bombe lors d'une réunion électorale au sud-ouest du pays, selon le ministre régional de la Santé, Faiz Kakar. Selon l'agence de propagande de l'organisation djihadiste, le groupe État islamique a revendiqué cet attentat qui intervient alors que le retour de l'ex-premier ministre Nawaz Sharif, condamné en son absence la semaine dernière à 10 ans de prison pour corruption, est prévu aujourd'hui. Il pourrait être mis en prison. En Syrie, une 50aine de personnes, dont 28 civils et des djihadistes, ont été tués dans l'est du pays dans un raid visant le groupe État islamique, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire n'était pas en mesure de dire s'il s'agissait de l'aviation irakienne ou de la coalition internationale anti-État islamique. Et en Italie, les 67 migrants recueillis par le Diciotti, navire des gardes-côtes, ont finalement pu débarquer pendant la nuit dans le port de Trapani, en Sicile. Pour débloquer la situation, il a fallu l'intervention décisive du président de la République italienne, Sergio Mattarella. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, avait refusé toute la journée d'hier de donner son feu vert au débarquement. Ce matin, il a exprimé sa stupéfaction envers la décision de la présidence. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Les start-up africaines se portent bien. Sur les 6 premiers mois de 2018, les jeunes pousses du continent ont levé plus de 168 millions de dollars, soit un peu plus que ce qu'elles avaient levé pour l'ensemble de l'année 2017. Ces chiffres confirment la bonne santé de l'écosystème d'innovation du continent et son potentiel de croissance, même si, pour le moment, les fondations et les bailleurs de fonds restent les principaux contributeurs. Une délégation des 8 principaux bailleurs internationaux de la Tunisie a apporté son soutien au gouvernement, l'appelant à poursuivre les réformes dans l'intérêt des citoyens. Au moment même où des critiques s'élèvent contre certaines mesures d'austérité, le Premier ministre Youssef Chaib peine à faire consensus, même dans son propre camp, autour d'un programme de réforme touchant notamment les caisses sociales et les nombreuses entreprises publiques. Directeur général de Crédit Suisse, le franco-ivoirien Tidjane Thiam s'est vu décerner le titre de banquier de l'année à Londres lors de la cérémonie des Euromoney Awards, un prix qui récompense la restructuration de la deuxième plus grande banque suisse et son retour à la rentabilité. Le Crédit Suisse a également été élu meilleure banque d'investissement dans les marchés émergents.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous, J-2 avant la grande finale de la Coupe du Monde à Moscou. Françaises et Croates se préparent pour ce match prévu dimanche à 15h, temps universel. Les Bleus veulent une deuxième étoile sur leur maillot, les Croates rêvent d'en décrocher une première. Pour les Français, il y a aussi une revanche à prendre sur eux-mêmes après la défaite en finale de l'Euro à domicile face au Portugal, c'était il y a 2 ans. On écoute Blaise Matuidi, le milieu de terrain de l'équipe de France, en conférence de presse.
Il y a 90 minutes, voire 120, il va falloir tout donner. Voilà. Je pense que c'est le match de notre vie. Honnêtement, on a tous, comme je l'ai dit, rêvé de jouer des matchs comme ça. Et à nous de mettre tout en œuvre justement pour réaliser ce rêve qui serait de soulever cette Coupe du Monde. On s'attend à un match très difficile et je ne pense pas que les matchs qu'ils ont fait en allant en prolongation, voire au pénalty, sera un handicap pour eux.
Blaise Matuidi, le milieu de terrain de l'équipe de France. Et on rappelle que si Deschamps remporte à nouveau la Coupe du Monde en tant que coach, il deviendra le 3e homme à réussir ce genre de doublé joueur-sélectionneur après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Tout de suite, les enjeux de ce match dans le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
D'un côté se trouve la France. Un ancien champion du monde à la recherche d'une seconde étoile pour rentrer définitivement dans la carte fermée des équipes aux victoires multiples en Coupe du Monde à côté de l'Uruguay, l'Italie, le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine. De l'autre côté, il y a la Croatie, le nouveau venu, longtemps placé, même sous un autre nom, jamais sacré, et qui tient à bousculer l'establishment comme l'Angleterre en 1966, l'Argentine de 1978, la France de 1998 et l'Espagne de 2010. Elle piaffe d'impatience au pied de l'Olympe. Dans cet ultime rapport de force, la France, représentante de la nomenclatura du football mondial, est forcément favorite de cette compétition. Au niveau du jeu, les Croates ont aussi de sérieux atouts à opposer aux favoris français. D'abord, leurs techniques individuelles ou aériennes, ce sont d'excellentes manières de ballon. Mais en plus, leurs qualités physiques sont exceptionnelles. La région fut un réservoir de gladiateurs sous l'Empire romain et les Anglais, adeptes de la culture du rugby, l'ont bien appris à leur dépens en demi-finale. Alors, l'équipe de France et ses guerriers africains, qui ont progressivement pris le dessus sur leurs adversaires dans ce domaine, doivent intégrer cette particularité croate afin que la catastrophe de l'Euro 2016 ne se reproduise pas. À dimanche.
Merci Jules. Sachez enfin que le Mondial 2022 organisé au Qatar se déroulera du 21 novembre au 18 décembre cette année-là. Annonce de Gianni Infantino, le président de la FIFA, ce vendredi. Un tel décalage est justifié par les températures caniculaires atteintes durant tout l'été dans l'Émirat. Il fait par exemple aujourd'hui 44 degrés à Doha.
Et merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Et cap sur le Cameroun, le président Paul Biya est donc candidat pour un septième mandat à la tête du pays qu'il contrôle presque seul, un pays dont l'écrasante majorité de la population a moins de 25 ans et où les régions anglophones sont en proie à un conflit armé. Ses opposants l'accusent d'être responsable du chaos dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'opinion publique est loin d'être unanime au sujet de la déclaration de candidature du président de Yaoundé. Le reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Les jeunes Camerounais sont partagés après la déclaration de candidature du président Paul Biya, quoique ce dernier ait placé sa candidature sous le signe de la stabilité, la prospérité et l'unité au Cameroun.
Je vais laisser les choses et donner une chance à d'autres personnes pour que cette personne vienne montrer de quoi ils sont capables.
Au vu des actes que nous voyons qu'ils posent pour le pays, c'est à nous les jeunes de prendre la décision.
Je pense qu'il peut, à ce moment précis où nous traversons quelques troubles, être le seul à même de faire revenir l'ordre.
À 85 ans, Paul Biya sera le plus âgé des prétendants au fauteuil présidentiel en octobre prochain. Une posture qui suscite également des avis contradictoires au sein de l'opinion publique à Yaoundé.
Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où actuellement les choses ne se sont pas stabilisées, on n'attend pas plus que sa présence à son âge. Les contraintes qu'un tel déplacement à partir de Yaoundé ne puisse lui permettre de faire ce déplacement en toute quiétude.
Vous savez, à cet âge, il y a certaines réflexions qu'on ne peut plus faire. Beaucoup de gens disent qu'ils ne travaillent pas bien.
Non, 85 ans, c'est l'âge majeur pour traiter les gens. Si on laisse les jeunes gérer le Cameroun, que deviendra le Cameroun demain? La vie est pour les vieux, pour les responsables.
Seuls les militants du RDPC, le parti au pouvoir, baigne dans l'euphorie totale. Paul Biya est l'homme de la situation. Professeur Elvis Ngolengole, coordonnateur de l'Académie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui a investi Paul Biya.
Cette candidature représente l'espoir pour les Camerounais, pour le Cameroun. C'est une candidature populaire, c'est une candidature républicaine. Son souhait, c'est que s'il est réélu, ensemble avec tous les Camerounais, ils vont faire de telle sorte que le Cameroun reste toujours stable et reste toujours prospère.
Le 19 juillet prochain, les Camerounais seront fixés sur le nombre de challengers du président actuel à avoir déposé leur candidature à Élections Cameroun, l'organe en charge d'organiser les scrutins au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et retour en République démocratique du Congo, où le parti de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, acquitté par la Cour pénale internationale, a ouvert hier les travaux de son congrès à Kinshasa, à 5 mois de la présidentielle du 23 décembre. Jean-Pierre Bemba est notre candidat naturel, ont scandé les militants du MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Idriss Fall fait le point avec Thierry Kambundi, rédacteur en chef de Top Congo FM, radio partenaire de VOA Afrique. À Kinshasa.
Comme vous l'avez dit et comme l'ont répété militants et autres cadres du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo devrait être plébiscité candidat de ce parti à la prochaine présidentielle. Eve Bazaïba, la secrétaire générale du MLC, l'a rappelé il y a quelques semaines en annonçant d'ailleurs la tenue de ce congrès, que ça devrait être sans surprise, d'autant plus que les militants et cadres du MLC ne cessent de rappeler que puisque leur leader a été acquitté dans la première affaire à la Cour pénale internationale, il ne se poserait aucun problème pour qu'il se présente à l'élection du 23 décembre prochain.
Qu'en est-il des autres candidats potentiels comme Moïse Katumbi?
Moïse Katumbi est là. Sa plateforme politique a tenu son meeting il y a quelques semaines ici à Kinshasa. Ses partisans maintiennent que Moïse Katumbi sera là. Il a récemment fait une publication lui-même, l'opposant qui est en exil, pour dire qu'il sera à Kinshasa pour battre campagne, qu'il va revenir au pays. Donc Moïse est là. Parlant de Félix Tshisekedi, il est également là. Il était présent avec Vital Kamerhe, l'autre potentiel candidat. Ils étaient tous là, l'ouverture du congrès du mouvement de libération du Congo. D'ailleurs, dans la journée de jeudi, Eve Bazaïba a plaidé pour l'unité de l'opposition qui, selon le vœu des uns et des autres, devrait désigner un candidat commun à la prochaine élection présidentielle. Il est vrai qu'il y a quelques mois, le mouvement de libération du Congo, l'UDPS et l'UNC s'étaient réunis et avaient levé l'option au moment venu de présenter un candidat commun. Mais depuis, les travaux n'ont pas évolué. Deux semaines maintenant, ou un peu moins, du début du dépôt des candidatures à la présidentielle.
Et est-ce qu'on en sait plus sur les intentions déclarées ou non déclarées du président Joseph Kabila lui-même?
On n'en sait toujours pas plus. Le président Kabila qui a promis de se prononcer ou de s'adresser à la nation à travers le Parlement réuni en congrès avant la clôture de la session extraordinaire qui a été ouverte le mois de mai. Donc ce sera dans quelques jours que l'on saura qu'est-ce que le président compte dire. Mais les assurances par Antonio Guterres sur Afrique qui a relayé l'information ont essayé d'apaiser les uns les autres. Ce qui est vrai, c'est que la position de Joseph Kabila est très, très, très attendue. Lui qui vient de créer une grande plateforme électorale nommée Front commun pour le Congo, à la question de savoir si c'est lui qui va aller comme candidat ou si c'est quelqu'un d'autre, les propos du président de la République sont très, très attendus dans les jours qui viennent au Parlement réuni en Congrès.
C'était Thierry Kambundi, le rédacteur en chef de Top Congo FM, radio partenaire de VOA Afrique à Kinshasa.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Et le président Donald Trump rencontre lundi son homologue russe, Vladimir Poutine, en Finlande. Cela fait longtemps que le leader américain dit vouloir améliorer les relations avec la Russie. Bill Gallo de la VOA revient sur les enjeux de ce sommet entre les présidents américains et russes. Son reportage est repris par Yacouba Ouedraogo.
Donald Trump séjourne en Grande-Bretagne, deuxième étape de sa tournée européenne. Son premier arrêt au sommet de l'OTAN à Bruxelles a été tendu. Le président américain a fait pression sur les pays européens pour qu'elles contribuent davantage pour leur défense. Donald Trump.
Nous avons l'OTAN, puis nous avons le Royaume-Uni, et ensuite nous avons Poutine. J'ai dit que Poutine est peut-être le plus simple de tous. On ne sait jamais, hein.
Ce n'est pas sûr que la rencontre Trump-Poutine donnera lieu à un accord. Mais il y a plusieurs domaines dans lesquels le président américain pense pouvoir coopérer avec la Russie, dont la Syrie, où Moscou apporte un soutien au gouvernement de Bachar al-Assad. M. Trump dit qu'il veut retirer les troupes américaines de la Syrie, mais s'inquiète de l'influence iranienne. Une autre question qui se pose, c'est de savoir si les États-Unis reconnaîtront officiellement l'annexion de la Crimée par la Russie. Donald Trump a refusé de se prononcer.
Ce qui va arriver avec la Crimée, en ce moment, je ne peux pas vous le dire, mais je ne suis pas content de la situation en Crimée.
La grande question est peut-être de savoir si Trump utilisera le sommet avec Poutine pour renverser l'alliance sécuritaire en Europe, ce qui exposerait de nombreuses petites nations européennes à une éventuelle agression russe. Jerry Retsalo est professeur à l'Université finlandaise de la Défense nationale.
Les États qui n'ont pas suffisamment la capacité de se défendre et qui dépendent donc de l'OTAN et des autres États membres pour leur défense sont vraiment inquiets et ça se comprend.
Malgré son discours sévère sur l'augmentation de la cotisation des États membres de l'OTAN, Trump n'a pas pris des mesures concrètes pour réduire le soutien américain à l'Alliance. Beaucoup d'Européens se demandent s'il ne le fera pas bientôt.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA menée par Médecins Sans Frontières en RDC.
À l'occasion de la Coupe du Monde de football, MSF a produit une vidéo de la star congolaise Shabani Nonda. Il invite ses compatriotes à se faire dépister et à ne pas stigmatiser les personnes qui vivent avec cette maladie.
Pour en parler, nous recevrons le chef du projet SIDA pour MSF en RDC et nous parlera des résultats attendus par cette campagne.
Nous écouterons aussi le témoignage du docteur Olivier Walla Walla, co-auteur d'une enquête sur l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-SIDA en RDC.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Et on retourne en République démocratique du Congo pour découvrir les bateaux Emmanuel. Il s'agit d'une initiative de l'entreprise Silimou qui construit sur place ses navires pour faciliter le transport entre les villes de Goma et Bukavu. Petite visite guidée avec Irone Hermanangbo.
Les ouvriers mettent ainsi les dernières touches à ce bateau qui naviguera sur l'un des grands lacs africains, le lac Kivu en République démocratique du Congo. Ce navire, long de 58 mètres, est le 13e d'une série de bateaux, assemblés localement et baptisés Emmanuel par ses fabricants. Ponyo Baruti, contremaître de l'entreprise Silimo.
Tous les appareils sont importés, on ne les fabrique pas ici. Ils sont importés quelque part. Mais nous, nous les installons ici, chez nous. Nous importons et nous installons.
Tous les jours, un bateau fait un aller-retour du port de Goma à Bukavu, transportant des centaines de passagers et des tonnes de marchandises sur une distance d'environ 130 km. Ces bateaux sont une bouée de sauvetage pour les personnes traversant régulièrement le lac Kivu, soit pour faire du commerce ou pour voir leurs familles et amis des deux côtés du lac. Haruna Maobi est un passager du bateau Emmanuel.
Nous n'avons pas de route au Congo. Les autorités ne s'en soucient pas. Les routes sont en mauvais état. Par exemple, le trajet de Goma à Bukavu prend au moins 5 jours par la route, mais seulement une journée en bateau. C'est pourquoi nous préférons transporter nos marchandises par ce moyen, parce que c'est plus pratique.
Ces bateaux sont alors devenus le moyen de transport le plus important entre ces deux villes lacustres de la RDC. Luenidan Mibola est le directeur financier de l'entreprise Silimo.
Nous avons plus de 200 passagers, 300 passagers par voyage. Et les voyages allés comme les voyages retour. Et donc nous avons essayé de peut-être d'amoindrir les taux de chômage au niveau de la population. Du fait que même à l'arrivée du bateau, il y a les effets d'entraînement qui se créent en économie, du fait qu'il y a des petits marchés qui se créent, les cambistes sont là, il y a les mamans qui vendent ici, et donc il y a l'argent qui tourne dans toute la couche de la population.
Les bateaux Emmanuel sont une idée d'un ingénieur congolais du nom de Emmanuel Semanyenzi. Il propose 3 classes de services, un restaurant, une discothèque et quelques lits. Les navires sont assemblés ici à Goma par un groupe d'ingénieurs locaux et de personnel de soutien. Ils sont pour la plupart des artisans autodidactes formés à l'art de construire des pirogues qui ont navigué sur le lac pendant des siècles. Ils utilisent des matériaux importés d'Europe et d'Asie.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Vendredi, tout est permis. On se laisse avec de la rumba congolaise, des Mingongo, Destin.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Lionel Gaïma, Sidrak Franklin, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook, sur notre site internet. Excellente suite de programme.
La fin des sincères, tu sais qu'on a eu mon corps, canalanga.